Quelle est l'importance de ce cours sur l'abandon à la volonté de Dieu? La première chose, c'est que quand on parle de l'abandon comme attitude spirituelle, c'est sans doute la finalité de toute notre vie chrétienne, le point culminant, si vous voulez, la sagesse par excellence de l'âme chrétienne, qui est de s'abandonner à la volonté de Dieu. On le voit d'une façon exemplaire dans la vie de la Vierge Marie, que j'aborderai à la fin de cette série d'enseignements, qui, dès l'Annonciation, dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », et qui va vivre cet abandon à la parole de Dieu jusqu'à la croix, donc dans l'épreuve la plus douloureuse, la plus grande qui soit pour la Vierge Marie, parce qu'elle est mère et parce qu'elle est mère de Dieu. Mais cet abandon ne s'arrête pas là. Cet abandon continue au matin de la résurrection et puis ensuite dans sa maternité de l'Église. Marie comme mère de l'Église qui, au jour de la Pentecôte, avec les disciples rassemblés, reçoit l'Esprit Saint et va vivre cet abandon à Dieu dans toute sa mission de mère. Et donc, on a là, certainement, quand on parle de l'abandon, il s'agit bien de la perfection de la vie chrétienne. Et c'est cela l'importance du cours. Enfin, d'un cours, d'un enseignement qui ne peut que vous mettre sur la piste, en fait. Le deuxième point que je vois aussi, c'est que l'abandon se vit dans les petites choses, mais si nous apprenons à les vivre dans les petites choses, c'est pour apprendre à le vivre dans les grandes choses, c'est-à-dire dans tout ce qui va faire notre vie. Et comme le dirait encore là aussi, comme le dit la prière mariale, maintenant et à l'heure de notre mort, le plus grand abandon qui soit, c'est l'abandon de nous-mêmes, de ce que nous sommes dans notre être le plus fondamentalement, âme et corps, cette dissociation de l'âme et du corps qu'est la mort, où il faut absolument tout abandonner. Père, en tes mains, je remets mon esprit, dit le Seigneur. Maintenant, soyons attentifs quand même, parce qu'il y a des difficultés à l'abandon. Nous les vivons, ces difficultés. Nous les expérimentons. L'une des difficultés, ce serait, et c'est une tentation aujourd'hui, c'est de réduire l'abandon comme attitude spirituelle à un comportement psychologique. On entend beaucoup parler du lâcher-prise. On entend beaucoup parler de la démaîtrise. Et quand on parle de l'abandon aujourd'hui, dans la vie chrétienne, on est sur un terrain qui est assez mouvant, où il y a pas mal de confusion. Vous voyez, d'aborder la chose du point de vue psychologique. Mon père, j'ai du mal à m'abandonner. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, si l'abandon représente la perfection de la vie chrétienne, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Il est normal qu'on en ressente les difficultés. Et en même temps, on ne peut pas en rester au simple sentiment ou à l'impression psychologique, affective, d'une attitude de lâcher prise, par rapport aux événements qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, etc. Il y a une autre difficulté dans l'ordre de l'enseignement de ce cours, qui est le fait qu'on puisse se dire, eh bien, avec un tel enseignement, enfin, je vais pouvoir avoir des réponses sur ma vie. Or, un enseignement est toujours plus général que les questions particulières que l'un ou l'autre parmi nous se pose, et chacun se pose des questions différentes. Chacun est confronté à des événements, les événements de sa vie, et en particulier les épreuves, la maladie, la souffrance, la séparation de personnes que l'on aime, que sais-je encore. Et fait que une chose est de parler, et il faut bien parler de l'abandon spirituel, l'abandon à la volonté de Dieu, et autre chose est de vivre cet abandon dans la vie quotidienne des événements que nous vivons, et dont pour la plupart nous ne maîtrisons pas forcément les tenants et les aboutissants. Ça, c'est, vous voyez, les difficultés propres. La difficulté, c'est, et d'une certaine manière, ces difficultés, l'une et l'autre, vont ensemble. C'est-à-dire que, parce qu'on ne comprend pas forcément, on a du mal à s'abandonner à Dieu dans les événements particuliers de notre vie, on a tendance à réduire l'attitude spirituelle de l'abandon à un comportement psychologique. Et donc, il y a un certain ordre il y a un certain nombre de considérations que je vais aborder, que je vais aborder dans cet enseignement sur l'abandon. Je ne vais pas tout aborder. Un prêtre n'est surtout pas un psychologue. Là, il faut bien dire les choses. Je le dis comme quand je fais des préparations au mariage. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un sexologue, je suis un prêtre. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un petit problème. Voilà. Mais non. C'est-à-dire que comme prêtre, ici, et père spirituel, c'est en spiritualité que je fais ces entretiens. Ça n'empêche qu'on fait peut-être appel un peu à la psychologie, qu'on peut faire peut-être un peu appel à la philosophie, mais ça n'est pas le centre de mon propos. Enfin, troisième chose, alors là, je réfrène tous les désirs et autres d'accompagnement spirituel. Je ne fais pas d'accompagnement spirituel. Parce que là, vous êtes 70 autour de moi, ce n'est pas possible. Donc là aussi, il faut calmer vos ardeurs. Et voilà, ma charge ici de curé est trop lourde pour pouvoir le faire. L'accompagnement spirituel n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. L'accompagnement spirituel n'est pas de l'écoute psycho-affective saupoudrée de mots un peu spirituels, et ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas accompagnateur ou accompagnatrice spirituelle. En général, on a reçu une formation pour ça. Donc, soyez attentifs à ça aussi. Mais pour ma part, là, sur ce point-là, je vais forcément vous décevoir, peut-être, certains d'entre vous, je ne fais pas d'accompagnement spirituel. Mon accompagnement spirituel, je le fais dans les enseignements, en fait. C'est aussi une forme. Et il me semble aussi, mais là il faudrait que je fasse peut-être si j'ai le temps, je ferai un enseignement là-dessus, sur la distinction entre la confession et l'enseignement et l'accompagnement spirituel. Voilà. Je vous donne ici, tout de suite, quelques titres qui m'ont aidé pour ces enseignements et qui peuvent vous aider, qui sont de livres facilement abordables. Le père d'Escouvement, peut-on croire à la providence? Faites attention parce que la providence et l'abandon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça peut vous aider. Le père de Caussade, vous l'oubliez parce qu'il n'est pas il est en réédition, mais pour l'instant on ne le trouve pas, sauf peut-être chez les bouquinistes ou alors comme livre d'occasion. C'est peut-être un livre que vous avez chez vous, il est bon de le ressortir, puisque nous allons être ensemble pendant 8 séances, c'est-à-dire 2 mois. Vous avez le temps de lire l'un ou l'autre de ces livres. Le troisième, c'est Saint François de Sales, le traité de l'amour de Dieu, et vous l'avez... Alors, ce n'est pas très très bien écrit, hein. Enfin, on ne le voit pas très très bien sur le tableau, là. Le traité de l'amour de Dieu, vous l'avez aux éditions Medias Paul, en extrait, parce que c'est quand même assez, plusieurs volumes, le traité de l'amour de Dieu, et ici, vous avez quelques extraits qui peuvent être, qui peuvent aussi vous aider. Vous avez du père Joël Guibert, L'abandon, un chemin de paix, à l'école de Sainte-Thérèse. Voilà, ça c'est un bon petit livre, très pédagogique, et qui peut vraiment soutenir les enseignements que vous allez recevoir ici. Alors, ces livres-là, hein, Peut-on croire à la Providence, L'abandon à Dieu, un chemin de paix, Le traité de l'amour de Dieu, vous les avez dans la petite librairie. N'y allez pas forcément après cet enseignement, parce que pour l'instant, on est en train de les commander, mais vous les aurez dès la semaine prochaine. Mais sinon, vous pouvez passer à la librairie et dire, voilà, pour la semaine prochaine, je voudrais commander tel ou tel livre. Et puis enfin, le cinquième, qui pour moi a été sans doute le livre qui m'a fait le plus travailler, avec lequel j'ai travaillé, et qui est un guide et un enseignement sûr et assez complet sur l'abandon, c'est Don Vital Léodé, Le Saint Abandon, aux éditions Arthège. Alors ce livre-là, c'est vraiment une sorte de traité complet, et il faut le lire très tranquillement. Je m'en inspirerai beaucoup pendant mes enseignements. Alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a d'autres ouvrages, mais ici je vous indique ceux qui peuvent vous intéresser. Descouvement, Guibert sont très pédagogiques, très abordables. Voilà, bien sûr, je m'intéresse toujours ici, c'est un peu la base de mes enseignements au Centre Bernanos. Je pars toujours de ce qui, pour nous, comme chrétiens, est le plus important, la parole de Dieu et le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, bien sûr, dans la mesure du possible, aussi, les textes du Concile Vatican II. Voilà les trois grandes sources l'Écriture comme la parole révélée et le catéchisme et le Concile comme le magistère de l'Église. Voilà, ça c'était une brève introduction. Une brève introduction à ces 8 séances. Hein. Vous m'entendez bien au fond ? Oui ? Bien, très bien. Alors maintenant, nous allons commencer aujourd'hui par amener une distinction extrêmement importante si nous voulons entrer dans cette attitude de l'abandon à la volonté de Dieu. Il faut d'abord entrer, si on parle de l'abandon à la volonté de Dieu, il faut d'abord connaître cette volonté divine et savoir comment elle s'exprime, cette volonté. C'est le cours d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui. Celui qui veut marcher sur le chemin de l'abandon au Christ doit connaître la volonté de Dieu. Il faut tout de suite ici être très clair. L'abandon à Dieu ne consiste pas dans une forme, ne peut pas se vivre sous le mode de l'ignorance. Ben, je m'abandonne à Dieu parce que je ne sais pas trop ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut. Donc, ce serait une tentation, ça. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il veut, je me laisse aller. Ça, c'est l'abandon du point de vue laitier, l'abandon du camembert. comme le camembert s'abandonne. J'ignore ce que Dieu veut, donc je laisse aller les choses. Je ne décide rien. Ça pourrait être une attitude. Et l'abandon ne consiste pas, de fait, à une sorte de paresse, voyez, de paresse spirituelle. À vrai dire, poser des actes de liberté, se décider, suppose quelquefois, et prendre des décisions intérieures, d'accepter la volonté de Dieu, suppose un certain courage. Un certain courage. Une force intérieure. C'est ce qu'on peut admirer chez la Vierge Marie. Quand elle dit « Je suis la servante du Seigneur », le puissant fit pour moi des merveilles. On n'imagine pas la Vierge Marie comme une espèce de maîtresse de la paresse. C'est pas possible. Il n'y a pas de paresse chez la Vierge Marie. Mais il y a un courage. Et il y a le courage aussi d'être debout au pied de la croix, au pied de son fils, alors que tout le monde a les yeux sur lui et est en train de ricaner devant cet homme pendu comme un bandit au milieu de deux autres bandits. Il y a une force intérieure dans l'âme de la Vierge Marie qui est tout à fait compatible et qui est même nécessaire à un véritable abandon. Il n'y a pas d'abandon sans courage. Alors ça, il faut très vite le mettre en place. Premier point, il faut voir quelle est la vie du disciple du Christ. Le disciple du Christ, c'est celui qui est amené à unir sa volonté à celle de Jésus pour faire la volonté du Père. Autrement dit, c'est bien, si l'abandon n'est pas la paresse, si l'abandon n'est pas une sorte de quiétisme, et ça a été une école théologique, une hérésie d'ailleurs. Vous voyez, une paresse devant les événements. La vie du disciple du Christ, c'est une action. C'est le fait de vouloir ce que Dieu veut. Et pas simplement le vouloir passivement, mais le vouloir activement. Je veux vraiment ce que Dieu veut. Quelle est la volonté du Christ? La volonté du Christ est d'être uni à la volonté du Père. C'est en cela que le Christ est notre modèle. Ma nourriture, dit le Seigneur, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma volonté, dit le Christ, c'est d'accomplir l'œuvre du Père. Jean 4, 34. Quand Jésus parle à ses disciples qui reviennent, ils sont allés faire les courses pendant qu'ils parlaient à la Samaritaine, puisqu'ils n'avaient rien à manger, et puis ils arrivent avec leurs provisions, en disant « Enfin, voilà de la nourriture !» Et c'est là que le Seigneur a dit « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté du Père. En vérité, je vous le dis. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 5, 19. Et donc, le Christ est notre modèle d'union de la volonté humaine à la volonté de Dieu. Le Christ est le modèle de cette union. Et l'abandon, peut dire tout de suite que l'abandon à Dieu consiste à unir sa volonté à celle de Dieu, à celle du Père, dans tous les événements de notre vie. Pas simplement d'une façon générale, pas simplement dans l'intention en disant, oui, d'une façon générale, bien sûr, dans l'intention, je veux faire la volonté de Dieu. Mais peu à peu, d'une façon très concrète, et à voir même dans les gestes de rien, les petits actes quotidiens, voir comment on perçoit, on peut être uni à la volonté de Dieu. Hein, ça, c'est tout l'enseignement thérésien, qui, dans son Carmel de Lisieux, qui n'avait pas du tout la réputation qu'il a maintenant, et pour cause, un Carmel froid, lugubre, sombre, elle a toujours eu froid, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voyez, avec des sœurs qui n'étaient quand même pas l'élite parisienne, et auxquelles il fallait se frotter un peu, voyez, tout le caractère bien normand qu'elle pouvait avoir. Eh bien, c'est dans ce petit Carmel obscur du pays d'Auge, en Normandie, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une maîtresse de l'abandon à la volonté de Dieu, va trouver dans les petits riens de sa vie ce que c'est que la doctrine de l'abandon. La lettre aux Hébreux reprend les paroles du psaume 40 et qui montre comment le Verbe de Dieu est venu dans le monde, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. « Voici, dit le psaume 40, je viens, car dans le rouleau du livre il est écrit de moi, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Donc Jésus n'a qu'un souci, n'a qu'un désir qui définit son nom et sa mission de Rédempteur, Jésus, Dieu sauve. Ce qu'il vient faire, n'a de sens que dans la mesure où il le voit faire au Père, et ce que fait le Père, il le fait pareillement, c'est-à-dire de sauver les hommes. La volonté du Christ, c'est de nous sauver. Nous aimer, c'est nous sauver. Comme je dis récemment dans une de mes homélies, hier ou avant-hier, peut-être avant-hier, la vie spirituelle ne consiste pas uniquement dans une sorte de petit gazouillis spirituel, « Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. » Et comme toi, tu m'aimes, tout est parfait. Ça ne consiste pas en ça. La vie spirituelle, dans notre modèle qui est le Christ, consiste à nous sauver. Et nous sauver pour le Christ, c'est donner sa vie. Pour les pécheurs. Donner sa vie par amour pour les pécheurs et les introduire, les délivrer du péché et de la mort et les introduire dans l'intimité de Dieu. Autrement dit, quand nous voyons le Christ, quand nous contemplons le Christ, nous découvrons la volonté de Dieu sur le monde et sur nous. Dieu a tant aimé le monde, Saint Jean 3, entretien avec Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en surabondance, c'est-à-dire la vie surabondante, c'est la vie de la grâce, c'est la vie éternelle. On peut dire, par exemple, voyez, je résume cela à partir de ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, numéro 458-460. Le Verbe s'est fait chair pour trois choses. Premier, le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Un amour qui nous sauve. Deuxièmement, pour être notre modèle de sainteté. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, dit le Seigneur. Apprenez de moi. Mettez-vous à mon école. Notre modèle de sainteté. Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Jésus est le modèle des béatitudes, la norme de la loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jean 15, 12. Et cet amour, comme moi je vous ai aimé, cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Et troisième point, pour nous rendre participants de la nature divine. Pourquoi le verbe s'est fait cher ? Pour nous rendre participants de la nature divine. Tout ne s'arrête pas à la croix. On peut bien sûr, et il le faut, contempler le Christ et contempler le mystère de la croix. Mais il ne faut pas s'arrêter à la croix. La croix est le passage obligé du Christ en vue de la résurrection. Le but, c'est la résurrection. Et nous contemplons toujours le mystère de la croix dans la lumière de la résurrection. Et c'est ça, la résurrection, c'est le Christ qui est vainqueur de la mort et qui va nous partager sa vie divine dans les sacrements ici-bas, et c'est la vie de la grâce, et dans la gloire, dans l'au-delà. Et il y a en nous, il y a une distinction importante ici, hein, la vie de la grâce ici-bas, et la vie de la gloire dans l'au-delà. Mais ça, c'est le but. Nous sauver du péché pour nous faire entrer dans la vie. Saint Thomas d'Aquin, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui fait homme fît les hommes Dieu. Je répète, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui fait homme fit les hommes Dieu. Bon, saint Thomas d'Aquin, mais saint Athanase le dit d'une façon plus lapidaire et plus claire, plus simple: le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Ça, vous pouvez noter, c'est plus simple, c'est plus court. Et donc, vous voyez, la vie du chrétien, deuxième point dans cette première partie, la vie du chrétien consiste dans cette imitation du Christ, cette suite du Christ, sequela Christi, qui est d'apprendre, comme lui, à sa suite, à conformer notre volonté à la volonté du Père. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je suis toujours sur la même... Je ne fais qu'approfondir ce que je vous disais au début. Il n'y a d'abandon qu'à partir du moment où l'on a décidé intérieurement de vouloir ce que Dieu veut. Décision intérieure. Les jésuites diraient dans les exercices spirituels: sous quel étendard vous rangez-vous? S'il y a des ignatiens ou des ignatiennes parmi vous. Vous voyez, la méditation sur les deux étendards. Vous irez voir selon les exercices spirituels. Vous voyez, sous la bannière du Christ ou sous la bannière de Satan. Serviam ou non serviam. Et sous la bannière du Christ, prendre la décision intérieure de dire: ce que Dieu veut, c'est notre salut, c'est mon salut, c'est-à-dire me faire entrer dans la gloire, me faire entrer dans sa vie. Et pour me faire entrer dans sa vie, je contemple le chemin qui est celui du Christ. Et moi, est-ce que je suis décidé à suivre aussi ce chemin ? vous voyez très vite déjà un peu où ça va nous mener. Est-ce que je suis décidé à suivre le chemin du Christ? Est-ce que ce que Dieu veut pour moi, est-ce que ce que Jésus veut pour moi et qu'il a fait déjà lui pour moi, est-ce que je veux vraiment y participer moi aussi, y coopérer moi aussi, par toute ma vie? Et voyez bien que l'abandon n'est pas quelque chose de passif. Je m'abandonne, tiens. Sous le marronnier. Je m'abandonne dans ma chaise longue. Tiens. Et bien j'attends que ça se passe. D'accord? L'abandon à la Marius. Donc, cela suppose, en tout premier lieu, il faut apprendre comment la volonté de Dieu se fait connaître dans notre vie. Parce que la volonté de Dieu, vous l'avez deviné, c'est la règle suprême de la vie du chrétien, du disciple du Christ. C'est comme ça que l'on demeure dans le Christ, c'est ce que nous avons entendu dimanche, en entendant l'évangile de ce dimanche. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure en la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Que vous deveniez mes disciples. Et devenir les disciples du Christ, c'est apprendre à garder sa parole, apprendre à garder ses commandements, c'est-à-dire à unir notre volonté à la sienne, à vouloir ce qu'il veut, à le repérer dans notre vie. Demandez ce que vous voudrez et mon Père vous l'accordera. Il ne s'agit pas d'être capricieux. Il y en a beaucoup, vous savez, c'est des prières de caprice. Bon, il n'ose pas demander au Seigneur la jaguar, ou alors, je sais pas, la piscine dans le jardin. D'accord, sachons raison garder. Mais demander ce que vous voudrez, ça ne veut pas dire demander comme un enfant qui fait un caprice. Ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Ça veut dire ce que vous demanderez en tant que disciple qui veut vraiment la volonté du Père. Donc ça, on y reviendra dans la prière, quand on abordera la question de la prière. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'abandon à la volonté divine va demander un exercice constant, va demander à la fois notre coopération et celle de la grâce. Nous détacher de notre volonté propre, c'est ça le point en fait. Et là on abordera la question du combat spirituel. Il n'y a pas de chemin de l'abandon spirituel si vous n'êtes pas prêt à un certain combat. Parce que ça ne nous est, depuis le péché originel, ça ne nous est pas facile d'abandonner notre volonté propre, pour faire la volonté d'un autre déjà, et alors pour faire la volonté de Dieu encore moins. Ça n'est pas facile. Les plus grands saints sont passés par ce combat spirituel, cette purification de notre volonté. Il y a une manière de le vivre, ce combat spirituel. Donc ça aussi, on l'abordera. Vous voyez. L'abandon à la volonté divine consiste à s'exercer à dire, Seigneur, non pas ma volonté propre, mais la tienne. Non voluntam meam, sed tua, non voluntam, mon Dieu, je ne sais plus mes déclinaisons, voluntam meam, c'est toi dominé. Non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse, Seigneur. Un mot de fait, alors là je résumais Saint Jean 15, je vous l'ai dit, Saint Jean 15, 4, 7, 8, vous l'avez noté, je vous l'ai dit. Deuxième point, c'est un mot sur la providence quand même, sur la divine providence. Il y a des mots qui bien sûr sont en lien, désignent des réalités qui sont en lien, mais qui ne désignent pas la même chose. Par exemple, la providence divine est à distinguer du gouvernement divin, bien qu'on prenne souvent l'un pour l'autre, et qui est à distinguer aussi de l'abandon à la volonté divine. La providence et le gouvernement sont du côté de Dieu, l'abandon est de notre côté à nous. Quand on parle de l'abandon, on parle de l'abandon à la providence divine. Mais je préfère, moi, parler de l'abandon à la volonté de Dieu, qui s'exprime, parce que vous allez voir comment elle s'exprime. Qu'est-ce que c'est que la providence divine? Ici, je vous donne des références très simples de l'Écriture et puis du catéchisme. D'abord, premier point, dans le catéchisme numéro 321, la divine providence, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime. La manière dont Dieu conduit sa création jusqu'à sa fin. Quelle est la fin de la création? Quelle est la fin de tout ce qui est créé? C'est de chanter la gloire de Dieu. La finalité. Autre point, vous regarderez aussi dans le catéchisme, c'est le numéro 302. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité du monde à l'autre et disposant tout avec douceur, sagesse suite, car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, même celles que l'action libre des créatures produira. C'est étonnant finalement, et vous êtes certainement surpris en lisant ces paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, après les événements que l'on vient tous de découvrir au Népal, des tremblements de terre, comme la catastrophe de ce qui s'était passé à Lisbonne, etc. Et on peut se dire, mais dis donc, comment Dieu gouverne les choses avec douceur? Il y a quand même un petit problème. Voilà. On reverra cette question dans l'abandon, dans les épreuves. Et pourquoi Dieu, finalement, il nous semble qu'il y a des ratés dans le gouvernement divin. Ça nous gêne, ça. Et donc, c'est pour ça aussi que l'abandon n'est pas si facile. Elle dit, moi je veux bien m'abandonner, mais enfin tout de même, voyez, est-ce que je suis sûr qu'il s'agit là de la volonté de Dieu? Est-ce que le tremblement de terre avec toutes les morts qui s'en suivent, et qu'on n'arrête pas de compter, c'est vraiment la volonté de Dieu? Et je peux avoir des doutes sur la manière dont Dieu mène toutes les choses à leur fin. Est-ce que cette création finit par chanter la louange de Dieu, la gloire de Dieu? Ça pose quand même des questions. Et on ne se dérobera pas à ces questions. Néanmoins, posons déjà cela. Qu'est-ce que c'est que la providence? Providence, c'est la manière dont Dieu conduit les choses jusqu'à leur fin. Et la fin de la création, la fin pour laquelle Dieu a créé toute chose, c'est de faire participer cette création à sa propre gloire. À sa propre gloire, à son être, à ce qu'il est, à son amour. Donc, arrivant à ce point, j'ai posé un petit peu les bases, vous disant que, finalement, l'abandon consiste dans une attitude qui n'est pas passive, mais active, par laquelle, nous en remettant à la providence divine, nous voulons ce qu'il veut. ce qu'il veut, c'est, c'est dit dans la lettre aux Éphésiens. Vous pourrez méditer là-dessus, si vous voulez, d'ici le prochain enseignement. Éphésiens 1, 3, 14. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. » Voilà. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Dieu veut faire de nous des saints immaculés en sa présence. C'est une manière de voir quelle est la volonté de Dieu sur nous. En lui, nous trouvons la rédemption. Dans le Christ, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ce dessein bienveillant, c'est ça la providence, c'est le dessein bienveillant de Dieu, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Voyez, voilà, nous sommes là ici bien dans ce que Dieu veut. Seulement maintenant, cette volonté de Dieu, elle s'exprime. Et les grands maîtres de spiritualité ont distingué deux manières fondamentales par lesquelles la divine volonté s'exprime. Et ça, c'est vraiment la base de l'enseignement sur l'abandon. Si vous entrez bien dans cette distinction, vous allez entrer plus facilement dans les prochains enseignements. Donc, c'est le troisième point. L'expression de la volonté divine ou l'expression de la volonté du Père. Elle s'exprime de deux façons. Il y a ce que l'on appelle en spiritualité la volonté divine signifiée. Et cette volonté divine signifiée, c'est celle qui s'exprime d'une façon explicite. Comme je vous l'ai dit, par exemple, nous avons lu ici Éphésiens, l'hymne aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. Vous avez ici l'expression signifiée, explicite, si vous voulez, de la volonté de Dieu. Dieu veut faire de nous des saints. Et vous voyez, dès que vous dites « Oh non, vous voyez mon Père, pour moi, la sainteté, non, je ne cherche pas la sainteté », eh bien, vous ne voulez pas la volonté de Dieu. Donc, c'est fini pour le cours sur l'abandon. Vous pouvez partir. Si vous ne voulez pas être des saints, vous partez. Enfin, il y en a qui peuvent rester quand même. Mais il peut y avoir au moins le désir, si vous voulez. Et s'il n'y a pas le désir, au moins la nostalgie. Ah, comme je voudrais. Je voudrais bien, mais je peux point. Sainte Thérèse de Lisieux, dans l'enfant Jésus, qui était normande, ne se disait pas ça du tout. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Ça ne vous fait pas des Thérèse de Lisieux, ça. Donc, la volonté explicite de Dieu, ce qu'on appelle la volonté divine signifiée, c'est celle qui nous est clairement manifestée dans l'Écriture, dans le magistère de l'Église. Et donc, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les commandements de Dieu. On les connaît, les 10 paroles, les 10 commandements. Les commandements de l'Église. Alors, quels sont les commandements de l'Église? Peut-être que les plus anciennes ou les plus anciens parmi nous les connaissent. Il y en a 5. Participer à la messe le dimanche et les jours de précepte, en s'abstenant de tout travail servile. Confession une fois par an. La Sainte Eucharistie au moins le jour de Pâques. observer le jeûne et l'abstinence au jour fixé par l'Église, mercredi des cendres, vendredi saint, le vendredi aussi. Et enfin, cinquième, je vous le dis, comme curé, je suis très très intéressé, subvenir aux besoins de l'Église. Je passerai avec le panier. C'est les commandements de l'Église, hein. Le denier de l'Église, c'est le commandement de l'Église. Enfin bon, je dis ça comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus large que ça, hein, bien entendu, c'est beaucoup plus large. Subvenir aux besoins de l'Église. C'est-à-dire, alors pourquoi c'est des commandements d'Église ? Parce que il faut bien les interpréter, ces commandements, bien entendu. Hein, parce que je les ai dit comme ça, c'est dit d'une façon un peu scolastique, scolaire, magistrale. Bon, faut bien rentrer dedans, mais il fallait quand même les... Alors, il y a la volonté divine signifiée, ce sont les commandements de Dieu, l'Église. C'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, notre devoir d'État. Qu'est-ce que c'est que le devoir d'État ? Parce que c'est là que commence aussi l'abandon. Ce que notre devoir d'État requiert, les obligations particulières de chacun par suite de son état, de sa situation, de sa condition. Autre chose est de vivre les 10 commandements. Quand on est mère abbesse d'une abbaye ou quand on est mère de famille, c'est pas la même chose. Honore ton père et ta mère. Quand on est célibataire, quand on est marié, quand on est loin, quand on est proche, quand ses parents sont malades, quand ils ne le sont pas, quand on a des revenus, quand on n'en a pas, ce n'est pas la même chose. Donc le devoir d'État, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accomplissement des commandements divins, dont on sait qu'ils expriment la volonté de Dieu pour nous, dans l'ordre de notre condition, de notre situation, de notre état de vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'ingénient à fuir leur situation et leur condition. Ça fait partie de l'ascédie, ça, de fuir sa condition et sa situation. Je suis seul, je m'ennuie. Pourquoi je ne me trouverais pas une petite vocation de mère spirituelle, tiens. Vous voyez ? C'est une manière de se faire des relations, une manière d'exister, une manière de se dire, vous voyez, moi je vaux quelque chose. Et puis comme personne n'y comprend rien en spiritualité, c'est assez facile. Il y a beaucoup de charlatanisme dans la paternité spirituelle, et dans la maternité spirituelle aussi. Je suis mère de famille, mais alors les enfants, j'en peux plus. Je vais aller aider le curé. Puis résultat, je passe plus de temps à la cure qu'à la maison. Et je ne demande pas au curé de savoir s'il en a assez ou pas, d'ailleurs. Mais je fuis l'art habile et consommé de fuir son devoir d'État par une pseudo-vie spirituelle, alors ça, il y en a. Alors ça, il y en a. Or, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas forcément que vous fassiez des choses pour lui, mais que vous fassiez ce qu'il demande lui. Et ce qu'il demande, c'est déjà votre devoir d'État, et de bien l'accomplir. C'est un peu raide, hein, c'est un peu raide. Donc je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas accompagnateur spirituel. Et je pense que là, maintenant, vous dites, ah oh, ben heureusement. Le père Lefebvre, accompagnateur spirituel, de loin. Hein. Beau de loin, mais loin d'être beau. Enfin, ouais. Bien. Troisième point, la volonté de Dieu s'exprime aussi par les conseils. Les conseils évangéliques. Alors, chez le religieux, chez la religieuse, ça passe par des vœux et par une exigence qui est à la hauteur de son désir, à la religieuse, de suivre le Christ dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. Mais ça ne veut pas dire que pour tous les chrétiens, il y a quand même une certaine manière de vivre même dans la vie conjugale, même dans la vie familiale, une certaine chasteté, une certaine pauvreté, un détachement des biens, Et puis une obéissance à l'Église, une obéissance au magistère de l'Église, à ce que Dieu veut, etc. Et puis les inspirations de la grâce. Pauvreté, chasteté, obéissance. Je prends les trois, après il y en a bien d'autres. Hein. Toutes les vertus chrétiennes, l'humilité, la générosité, etc. Mais je prends les trois grands. Les inspirations de la grâce, c'est pas les petites locutions intérieures. Hein. Les inspirations de la grâce, c'est pas ça du tout. Les inspirations de la grâce, c'est le sentiment que, en faisant telle action, nous faisons bien. Nous agissons vraiment selon la volonté de Dieu. Et le discernement sur les inspirations de la grâce, bien c'est déjà tout ce qui précède. Est-ce que quand je fais ceci, quand j'entreprends telle chose, est-ce que je suis vraiment dans l'ordre des commandements de Dieu? Est-ce que je ne fuis pas mon devoir d'État? Est-ce que je suis dans une authentique vie chrétienne, etc. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et puis enfin, il y a une deuxième manière dont la volonté de Dieu s'exprime. C'est ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir, le bon plaisir de Dieu. Alors c'est une expression qu'on retrouve chez plusieurs maîtres de spiritualité et qu'on trouve en particulier chez saint François de Sales. On la retrouve aussi chez sainte Thérèse d'Avila, on la retrouve un peu chez saint Ignace. Pour bien distinguer cette volonté divine signifiée et cette volonté de bon plaisir. Alors la volonté de bon plaisir se découvre à mesure que les événements se déroulent. Cette volonté de Dieu, c'est celle qu'on découvre à travers les événements qui viennent de Dieu directement, dans les tribulations qu'il permet, bien qu'il ne les aime pas par elles-mêmes, ces choses. Dieu ne veut pas le mal, sous aucune de ses formes. Ni un tremblement de terre au Népal, ni à Lisbonne, ni votre propre mort, le Seigneur ne la veut pas en tant que telle. Et néanmoins, il la permet. Il ne veut même pas votre péché, d'ailleurs. Et pourtant, il le permet. C'est curieux. Il s'agira de s'interroger aussi là-dessus. Bien qu'il ne les aime pas pour elles-mêmes, il veut les employer et il les emploie comme sa grande ressource pour nous amener à notre fin. La volonté de bon plaisir de Dieu, c'est la volonté qui s'exprime à travers tous les événements que nous allons vivre et que nous ne comprenons pas forcément toujours. Saint François de Sales, il y a la volonté de bon plaisir de Dieu, laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est tout ce qui nous arrive. En la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation, en les choses adverses et prospères, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues. Dieu, par sa providence, gouverne toutes choses, maintient tout dans son être, rien ne lui échappe. Et donc, tout ce qui arrive n'arrive que dans l'ordre de sa permission. Y compris ce qui est, y compris le mal. Alors, je vous renvoie ici à l'enseignement qui a été fait cette année et qui est en ligne sur le site de l'Espace Bernanos. Le cours du père Geoffroy Marie sur tout le mystère du mal, que je ne vais pas refaire ici. Donc, ça c'est très important, ce que les maîtres de spiritualité entendent par la volonté de bon plaisir de Dieu, qui revêt trois caractéristiques importantes. Je terminerai par là. Le bon plaisir de Dieu se découvre à mesure que les événements se déroulent. Et quand ils se produisent, quand ces événements se produisent dans notre vie individuelle ou collective, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté ecclésiale, au sein de, admettons qu'un beau jour nous retrouvions l'église Saint-Louis-d'Antin complètement détruite. Bon. Mais comment Dieu peut-il permettre une chose pareille? Je serais bien d'accord avec vous. Ce serait difficile à comprendre. Et pourtant, Dieu le permet. Ah oui, une chose. Ne, surtout, apprenez à ne pas avoir une conception individualiste de votre vie spirituelle. Dieu n'agit pas avec nous d'une façon individualiste. Il ne s'occupe pas uniquement d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel à côté, et puis etc., comme si on était séparés les uns des autres. Dieu s'occupe de nous en s'occupant de tous. Notre destinée individuelle fait partie de la destinée d'un tout, qui est notre famille, qui est notre pays, qui est l'Église, qui est le monde. Vous voyez ? Dieu ne fait pas plaisir aux uns, puis aux autres, et puis à chacun son tour, etc., etc. Non. Dieu s'occupe de nous en s'occupant de tous. Ne soyons pas individualistes. Deuxième point, donc, le bon plaisir, premier point, le bon plaisir de Dieu se découvre à la mesure que les événements se déroulent. Deuxième point, nous ne sommes pas maîtres des événements qui se déroulent. Nous ne sommes pas maîtres de l'ensemble des événements qui nous arrivent. Et quand nous décidons un projet et que nous essayons de réaliser un projet, il y a bien des facteurs qui nous échappent et qui arrivent. Ce qu'on appelle les contingences, les choses contingentes. Et Dieu seul en est le maître. Et Dieu ne nous consulte pas toujours. Ça aussi, vous savez, c'est des choses qu'il faut mettre de côté, ça. Dieu ne nous consulte pas pour savoir forcément ce qui est bon pour nous. Sa providence nous place dans telle ou telle situation que nous n'avions pas prévue. Nous subissons un certain nombre d'événements. Le Seigneur, de fait, nous rappelle notre entière dépendance comme créature, notre entière dépendance à la marche du monde dont il est le maître. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, troisième aspect de la volonté de bon plaisir de Dieu, c'est que tant que le bon plaisir de Dieu nous est inconnu, il faut nous attacher à accomplir sa volonté signifiée. Dans le bonheur ou les épreuves, dans la santé, dans la maladie, comme le disent les époux lorsqu'ils se marient, dans le bonheur ou les épreuves, dans la santé, dans la maladie, quoi qu'il arrive, je cherche à faire au moins ce que Dieu demande d'une façon expresse, explicite. C'est ainsi que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle commence à être malade, elle demande à Mère Marie de Gonzague, qui est sa supérieure à ce moment-là, si elle peut continuer d'aller à l'office, si elle peut continuer d'aller à la messe, etc., etc. Et puis, c'est au fur et à mesure où les événements se révèlent que peu à peu, elle est démise de son devoir d'état de religieuse, de certaines de ses charges, qu'elle n'est plus au réfectoire, qu'elle n'est plus à la peinture, qu'elle n'est plus, etc., et qu'elle va peu à peu se retrouver à l'infirmerie. Voyez ? Mais elle aura cherché toujours à faire la volonté expresse de Dieu. Donc, rentrez bien dans cette distinction entre la volonté expresse et la volonté de bon plaisir, la volonté divine signifiée et la volonté de bon plaisir. Parce que si, comme je l'ai dit au début de cet enseignement, s'abandonner à Dieu n'est pas être passif devant tout ce qui se passe, mais dans tout ce qui se passe, apprendre à vouloir ce que Dieu veut, la première chose qui nous est demandée à tous dans l'abandon, c'est de faire effectivement ce que Dieu nous demande. Or, ce qu'il nous demande, c'est les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, notre devoir d'État. Si déjà vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans l'abandon. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Première chose qu'on voit. Ah, mon père, je voudrais m'abandonner. D'accord, très bien. Est-ce que vous priez ? Est-ce que vous allez à la messe, etc. ? Oh non, ça me fatigue. Ben, bien sûr. Vous n'êtes pas prêt de vous abandonner dans ce sens-là. Je fais une petite précision, une dernière précision. C'est que à la volonté divine signifiée correspond la vertu d'obéissance. La volonté divine signifiée appelle en nous l'obéissance. L'obéissance est un acte libre. On peut toujours refuser les commandements de Dieu. On peut toujours refuser les commandements de l'Église. Mais il faut être clair, là on est dans le refus. C'est-à-dire que l'obéissance est un acte libre. Ce n'est pas de la contrainte, ce n'est pas de la soumission. L'obéissance est une vertu, donc elle s'adresse à notre liberté. Alors que la volonté de bon plaisir est un acte de charité. Et sous cet aspect-là, on peut définir l'abandon comme un acte d'amour. Parce que précisément, l'abandon va être effectif et d'une certaine manière plus méritoire dans l'ordre des événements qui nous arrivent, permis par Dieu, qui arrivent selon le bon plaisir de Dieu. C'est le bon plaisir de Dieu. Et au milieu desquels, nous allons répondre à l'amour de Dieu par notre propre amour. L'abandon est donc un acte d'amour, ou si vous voulez, un acte de charité. Il faut bien comprendre ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que la charité ? C'est l'amour que nous portons à Dieu, avant toute chose. Vous voyez ? L'abandon est un acte d'amour dans les événements qui arrivent selon le bon plaisir de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Alors je vous laisse méditer sur tout cela et vous dis à la semaine prochaine. Merci.